Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce magazine Comme un lundi du 21 décembre 2020. Aujourd'hui, on vous propose de revenir sur le rassemblement du jeudi 17 décembre dernier à Albi en soutien au secteur culturel. À partir de 17h, le hall du Grand Théâtre de la Scène Nationale a ouvert symboliquement ses portes, proposant prise de parole et quelques prestations musicales. Environ 300 personnes se sont réunies dans le hall et devant le parvis du Grand Théâtre. On vous propose maintenant d'écouter quelques échos de cette soirée de mobilisation.
Bonjour.
J'ai vu une petite pancarte, le frigo.
Oui. C'est moi qui fais les banderoles. Regardez si c'est beau. Franchement, hein. Et alors j'ai mis tout ce qui était annulé, repoussé, voilà, reporté. On fait que ça. Tous les deux mois, on bouge les choses. On redonne des jours. On fait des courriers aux artistes. Les artistes nous demandent des courriers pour dire qu'ils veulent des subventions. C'est affreux.
De l'activité partielle.
C'est affreux. On fait que on fait que des choses administratives. Et on essaie d'organiser des choses qui ne veulent pas s'organiser.
Depuis combien de temps c'est comme ça là pour vous?
Et toute l'année, hein. Puisqu'on a commencé au premier confinement et là. On a reculé les choses, il y a eu les congés au milieu, et on a recommencé en se disant ça va marcher et hop, on est retombé dans le même, dans la même situation et on a recommencé à repousser. Il y a des choses, c'est la quatrième fois qu'on les remet en place. Je ne sais pas si les artistes vont avoir le courage de recommencer. C'est dur, hein.
Les artistes et vous aussi, les programmateurs, ceux qui proposent des lieux.
Et nous, de rester avec le cap pour ne pas lâcher, oui, bien sûr. Moi, il y a des moments, j'en ai assez. Hein. Ça ne m'intéresse pas. Hein. Vous imaginez, on est bénévole et on travaille toute la journée et on n'a aucun résultat. Enfin, voilà. Le seul résultat, la seule gratification qui nous fait... qu'on demande, c'est les applaudissements et des gens qui soient heureux d'être au frigo. Voilà. Et on n'a plus rien de tout ça. Que des ennuis. Et voilà. Et c'est tout.
Et du moins qu'à gagner.
Voilà. Et on vient travailler pour absolument rien et encore moins.
Est-ce que vous avez réussi à proposer quelques petites propositions culturelles justement entre les deux confinements où il y a eu un petit peu cette respiration là.
Oui, il y a eu quelque chose qui était programmé, qui se sont faites entre les deux confinements. Oui. Une résidence d'artistes l'été, les premiers spectacles au mois de septembre, deux ou trois. Et puis là, on espérait pouvoir faire une ou deux événements entre le 15 décembre et le Noël. Et bon, malheureusement, ça ne s'est pas fait. Il y avait deux soirées qui étaient prévues. Mais...
Dans le premier confinement aussi, moi, j'avais installé avec l'exposition qui était, je donnais des rendez-vous et je faisais visiter sur rendez-vous l'exposition à une, deux, trois ou quatre personnes. Et ça avait très bien marché. Les gens, ils étaient heureux de venir voir autre chose pendant un moment, qu'on parle d'autre chose.
Parce que du coup, cet entre-deux confinement a montré que beaucoup d'acteurs et d'actrices culturelles pouvaient s'adapter à certaines contraintes sanitaires qui étaient demandées, et que ce soit les lieux d'exposition ou les spectacles. On a pu voir des spectacles avec des protocoles assez réglementés.
Par Internet, etc. Mais bon,
même en présentiel, Internet, c'est encore un autre débat.
Mais... Oui.
Nous, notre problème, peut-être, c'est qu'on a un lieu un peu petit et que donc c'est très compliqué entre le public et les artistes pour avoir assez de place, entre guillemets, pour pouvoir tout caser. C'est possible, mais voilà. Sous beaucoup de contraintes quand même, voilà. On n'a pas vraiment pu passer au travers, sentir que... Quand on prend des spectacles, ils ont déjà une forme. Et si ils ont, par exemple, les artistes ont besoin d'assez, de place, c'est déjà compliqué chez nous pour leur céder la place. Si après on a encore des soucis pour caler les spectateurs, ça complique beaucoup.
Vous êtes situé où, le frigo ?
Près de la place Sainte-Claire, tout près de la préfecture, du conseil général, une petite rue qui longe le lycée La Pérouse.
Voilà. Et vous, alors si peut-être je me trompe, mais il me semble que vous êtes sous forme associative.
Oui.
Donc du coup, si les gens peuvent vous soutenir d'une certaine manière en adhérant à l'association du frigo.
Oui, ben, sauf que comme les gens ne viennent pas, donc souvent les adhésions se font en même temps qu'on prend une place pour un spectacle ou quand on vient nous voir ou pour une exposition, un vernissage. Et là, il n'y a rien qui se passe, donc il n'y a personne qui vient. Et donc, il y a beaucoup moins d'adhésions. On a peut-être, 1500, 2000 euros de perte de financement par rapport aux adhésions en ce moment. Voilà, j'espère que peut-être si on est vraiment dans la mouise, comme ça peut arriver, puisque il n'y a rien qui rentre et il faut payer le loyer, etc. Il faudra peut-être faire un appel à générosité, quelque chose pour passer le pouvoir continuer, mais on verra.
On fera des soirées généreuses. Il y a des artistes qui nous l'ont proposé, donc il n'y a pas de... Voilà, on fera ça aussi.
Bon, merci beaucoup.
Merci.
Est-ce que je peux vous redemander votre prénom à chacun, chacune?
Roland.
Oui.
Et Claire.
Merci beaucoup.
Merci.
Voilà, on est là aussi parce que celles ou ceux qui ont suivi les événements de ces derniers jours, là on vient de vivre un épisode assez cocasse dans lequel on nous a annoncé d'abord une reprise, vous savez que les conservatoires ont été fermés dans ce nouveau confinement, on nous a annoncé une reprise au 15 décembre qui est un mardi dans la semaine qui allait conduire aux vacances, donc on s'est dit, on a manifesté fortement notre souhait de vouloir reprendre plus tôt un lundi, et puis voilà, finalement on nous annonce que non, le vendredi on nous dit non, vous allez rester fermé, et finalement un tweet à 18h le lundi 14 décembre nous annonce que non, finalement c'est une blague, on reprend le lendemain. Vous voyez, ça c'est le genre d'attitude qu'on peut plus tellement tolérer, quoi. Il y a une sorte de mépris qui fait que on a d'abord été un peu désappointé, un peu désabusé, puis maintenant, en ce qui me concerne, je suis plutôt un peu en colère. Donc voilà, c'est aussi ça qui nous réunit, c'est que aujourd'hui, oui, il y a une crise sanitaire, oui, la situation est difficile, oui, elle est certainement très, très, très difficile à gérer. Loin de moi, l'idée de faire un procès d'intention à qui que ce soit, j'aimerais pas avoir à gérer au plan national cette crise sanitaire. Mais aujourd'hui, ce qui nous met un peu en colère, ce sont les incompréhensions qui s'accumulent les unes aux autres, de mesure en mesure, et qui nous amènent, comme ça a été dit plusieurs fois, à se dire qu'on n'aurait aucun risque à aller faire la queue dans les grandes surfaces, on n'aurait aucun risque dans les lieux scolaires, on aurait des risques majeurs dans un conservatoire ou en venant s'asseoir dans une salle de spectacle. Voilà, donc c'est simplement ça qui nous fait nous réunir aujourd'hui. Je vois qu'on est très nombreux, il y a beaucoup de monde dans le hall, il y a encore plus de monde dehors. Donc pour moi aujourd'hui c'est une étape, on va dire, de... On voulait voir un petit peu si les gens avaient envie de se mobiliser pour défendre tous ces lieux, toutes ces institutions de culture. Il y aura d'autres étapes, vous le saurez, on fera en sorte que vous puissiez le vivre avec nous. Mais voilà, en tout cas, un des messages, c'est de se dire que le Conservatoire de musique et de danse du Tarn est solidaire. Laurent Van Endriège, le président du Conservatoire, ne pouvait pas être là ce soir, mais monsieur Ramon est là, je vous remercie. Mais voilà, il partage avec moi cette conviction que nous sommes tous essentiels pour de vrai, et que ça, c'est pas quelque chose de négociable. Voilà tout ce que je voulais dire. Je remercie la scène nationale pour cette initiative, et puis la parole va circuler ce soir.
Après cette prise de parole de Frédéric Naël, directeur du Conservatoire de musique d'Albi, on retourne sur le parvis du Grand Théâtre d'Albi à la rencontre d'autres acteurs et actrices du secteur culturel réunis ce jeudi 17 décembre 2020.
et on est en compagnie de Jérôme Cabot, programmateur pour le retour du jeudi. Bonjour à toi.
Bonjour.
Vous faites partie aussi de ceux qui ont lancé un appel pour ce soir. Vous avez dit que donc, vous faisiez un retour du jeudi ce soir, donc le 17 décembre. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où c'est parti cette idée et pourquoi vous avez voulu faire ça?
Alors l'idée, moi, m'a été adressée par un mail qui émanait de collègues de l'équipe de la scène nationale. J'y ai tout de suite souscrit parce que je croyais qu'il y avait une urgence, un besoin de mettre sur la place publique, donc sur le parvis du Grand Théâtre, j'ai une visibilité, le désastre culturel qu'on vit depuis mars, qui est c'est pas le seul secteur frappé par ce désastre, mais par contre c'est celui avec les universités chez lequel le désastre va durer le plus longtemps, en fait, parce que c'est les lieux culturels comme les universités sont fermés encore. Moi, je suis à double titre interpellé parce que je suis universitaire et à l'université, je m'occupe du service culturel. Et je suis responsable d'une licence pro qui prépare au métier de la culture, dont beaucoup d'étudiants et d'anciens étudiants sont présents d'ailleurs aujourd'hui. Il se trouve que ça tombait un jeudi. Le mail qui émanait de Céline de la scène nationale disait un retour du jeudi en décembre façon 2020, et c'est donc le rapprochement, il vient d'elle, et je l'ai repris balle au bon, c'est-à-dire que j'ai mis dans l'objet du mail le retour du jeudi 17 décembre pour que ça se présentait comme mes mails hebdomadaires qui annoncent une programmation, sauf que la programmation du retour du jeudi version confinement, c'est ça, c'est par contre, c'est un spectacle très interactif où chacun est acteur autant que spectateur, puisque c'est une manif, en fait. Mais pour moi, c'est autant du culturel que du politique, comme toujours la culture, d'ailleurs. Donc, je suis très content qu'il y ait du monde. Et je suis là, je le répète, en tant qu'universitaire, chargé du service culturel, en tant qu'artiste, parce que je joue dans un groupe qui s'appelle Double Apax, dont toutes les dates programmées depuis mars ont été annulées et aucune reprogrammée pour 2021, comme on peut s'en douter et comme c'est le cas pour la plupart des artistes. Les politiques qui, à l'échelle locale, comme la mairie d'Albi, ou à l'échelle nationale, comme le gouvernement ou Macron, disent qu'il faut se réinventer, il suffit de tout décaler. C'est vraiment ne pas connaître les spécificités de nos métiers, en fait. Une saison, ça se programme avec un an d'avance. Il va y avoir un effet d'embouteillage dans les salles de cinéma, dans les théâtres, avec des choses qui n'auront pas été programmées en 2020, mais des créations ou des films qui sortent en 2021. Et du coup, il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Ou alors, ça veut dire que les pouvoirs politiques, une fois de plus, au niveau de la mairie d'Albi, comme de toutes les collectivités locales jusqu'au niveau du gouvernement, pourraient peut-être décupler les crédits de la culture pour permettre de passer deux fois plus de films et de diffuser trois fois plus de spectacles. Je ne suis pas sûr qu'on en prenne le chemin. Moi, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec ce qu'a connu la MJC d'Albi en conseil municipal il y a deux jours, où c'était pitoyable sur le niveau et dans la forme et dans le fond de ce qu'a montré la majorité municipale. Donc moi, je suis très inquiet pour des raisons tant locales que nationales et même à l'échelle du village global de la planète Terre. La culture, ça fait peur en période confinée, ça faisait déjà peur en période capitaliste en général. Mais là, je me dis, quelle place il reste pour nos métiers et pour les valeurs d'émancipation, d'esprit critique que véhiculent ces métiers, qui est la vocation même de ces métiers. Et une fois de plus, la vocation même du métier d'universitaire, comme la vocation du métier d'acteur culturel. Donc une fois de plus, je suis doublement en colère. J'ai deux raisons d'être en colère.
Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu, toi tu disais que tu étais en lien avec des étudiants qui travaillent sur le monde du spectacle. Est-ce que tu es toujours en lien avec eux par visio? Est-ce qu'ils sont dans quel état d'esprit là, quand on sait qu'on est en train d'étudier dans un secteur qui est absolument pas soutenu et qui est un petit peu en train de se casser la gueule, mais comme dans beaucoup d'autres secteurs malheureusement?
L'impression que ça donne quand on nous serine qu'il faut se réinventer, que ce soit Macron ou Guiraud Chomeil, il faut se réinventer visiblement. Se réinventer, moi j'ai l'impression, à l'échelle, par le prisme de mon métier en tout cas, que dans beaucoup de cas, c'est conserver une vitrine, une façade, faire semblant que l'activité perdure. La continuité pédagogique, c'est une connerie fondamentale en fait. C'est pas vrai. La pédagogie, ça se fait dans une salle, quand on a les gens en face, et que quand c'est des étudiants, on anime un groupe d'adultes réfléchissants qui, dans l'interaction, dans la controverse, dans la confrontation d'arguments, apprennent à apprendre, en fait. Donc, continuer à faire cours par Zoom, c'est considérer que l'enseignement, ça n'est qu'une transmission descendante d'informations unilatérales d'une source savante vers un troupeau d'ignorants. Et je me fais une idée un peu plus exigeante de l'enseignement universitaire. Donc là, qu'est-ce que je fais ? Effectivement, je fais beaucoup de visioconférences avec des étudiants d'une licence professionnelle gestion de projet et structure artistique et culturelle. Tous me disent « on n'a pas signé pour ça en fait ». Beaucoup étaient à deux doigts d'abandonner alors que c'est des gens qui viennent par choix dans une formation ultra sélective. Il y a 20 places, 20-25 places pour 100-120 dossiers de candidature au départ. C'est des gens pour beaucoup, un tiers à peu près de la promo qui sont en reprise d'études, qui ont 30, 40, 50 ans, qui ont déjà de la bouteille, qui reviennent pour une réorientation professionnelle ou pour compléter les expériences de terrain qu'ils ont accumulées. Donc c'est des gens qui ne se satisfont pas plus que moi du dispositif de la visioconférence. Donc on sauve les meubles, on gère l'urgence, on fait en sorte que ça ne soit pas une année blanche. Leur implication est aussi déterminante que la motivation que j'y mets de mon côté. Et le paradoxe, c'est qu'en fait on remue des montagnes alors que eux et moi, on est convaincus que sur la méthode et au-delà de ça, sur le fond de ce dont ça témoigne quant à une évolution de l'université, de la place que prennent les technologies et notamment le numérique dans nos sociétés, c'est quelque chose qui est plutôt alarmant. Et en même temps, pour que cette année ne soit pas perdue, on se prête au jeu, mais on se prête au jeu comme un crève-cœur en fait. Et l'institution, en tout cas, nous engage à faire semblant, j'ai l'impression. Quand je dis l'institution, c'est Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, quand elle pense à s'exprimer, parce que depuis mars, on ne l'a quasiment pas entendue, pas plus que Roselyne Bachelot. Je me demande si c'est des ministres qui sont dotés de la parole, en fait, tellement elles sont inaudibles. Une fois de plus, je faisais le lien avec la délibération du conseil municipal qui concerne la MJC. Je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec la loi de programmation pluriannuelle de la recherche.
J'allais y venir, 2020... mais bon, tu fais les liens tout seul.
Ben ouais, 2021-2025, c'est passé en force. Ça veut dire quoi, c'est passé en force ? L'Assemblée l'a voté, le Sénat l'a voté. Par contre, c'est une loi, en temps normal, elle ne serait pas passée. Pourquoi ? Parce que si les facs n'étaient pas confinés, les facs seraient bloqués, en fait. Les facs seraient bloqués parce que les étudiants, mais également les enseignants-chercheurs, qui ne sont pas toujours des contestataires, les présidents d'université qui sont en général jamais des contestataires, mais là, toute la communauté universitaire, de l'étudiant jusqu'au président d'université, s'est prononcée contre cette loi. Et cette loi, elle passe par magie à un moment où les facs ne sont pas ouvertes, où du coup, il n'y a pas de possibilité qu'il y ait ne serait-ce que des échanges informels à la machine à café, voire des assemblées générales, des réunions d'information. Et donc, là encore, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien entre le mépris des gouvernants pour la culture, pour l'enseignement, y compris pour l'enseignement supérieur. C'est sidérant, en fait. C'est sidérant, on se fait chier sur la gueule, Et pour des raisons de santé, visiblement. Mais je trouve que là, le Covid a bon dos parce que ça fait passer des choses qui, en temps normal, n'auraient jamais dû passer, n'auraient jamais pu passer, en fait.
Merci beaucoup. Et malheureusement, je crois que cette loi, elle prévoit aussi des peines, des amendes très lourdes et jusqu'à des peines de prison pour les personnes qui bloquent les facs, justement. Comme oui. Ça, au moins, la contestation, ce sera vite réglé.
Ouais, c'est au détour, il y a aussi une criminalisation, effectivement, du fait que les facs sont parfois, dans certains mouvements sociaux, partie prenante, voire l'avant-garde sur certains mouvements où c'est les étudiants qui ont été les premiers à réagir. Et le fait qu'une fac soit aussi, parce qu'il y a une infrastructure, parce que ça réunit beaucoup de monde, parce que ça réunit la jeunesse, les facs sont parfois la base arrière des mouvements sociaux. Parfois, dans une ville comme Albi, ou même une ville comme Toulouse, si un mouvement social a besoin de se réunir, c'est dans l'amphi de Jean Jaurès que va se tenir une assemblée générale interprofessionnelle. Bon, ben ça, désormais, dans le texte de la loi, c'est criminalisé, c'est passible de poursuite, et c'est le reniement d'une tradition de l'université qui remonte au Moyen-Âge, en fait, et qui faisait depuis le Moyen-Âge des universités, des lieux d'asile, en fait, dans un autre genre que les églises, mais des lieux d'asile et ça ne remonte pas à mai 68, mais c'est bien plus ancien que ça, où les forces de l'ordre ne pénètrent pas, où il y a une sorte de bienveillance de principe sur y compris les poussées de fièvre que peuvent connaître les 18-25 ans quand la situation sociale ou les mesures politiques le provoquent. Et ça, les facs pour le moment sont confinées, mais quand elles rouvriront avec cet article de loi qui permet qu'elles soient un peu pénalement reconfinées en période de contestation sociale. Et je pense que le gouvernement a effectivement toutes les raisons de craindre les mouvements étudiants des deux ans qui restent avant la fin du mandat de Macron. Ils ont toutes les raisons de maintenir le confinement des facs le plus longtemps possible, parce que ça les arrange bien.
En espérant qu'elle réouvre quand même le plus tôt possible, en tout cas. Merci beaucoup à toi, Jérôme Cabot, et je rappelle donc que parmi tes nombreuses attributions, tu es programmateur du retour du jeudi à la PAC, professeur à la PAC, et donc tu fais partie du duo double APAX aussi. Merci
ça.
Beaucoup à toi.
Merci Albigès.
Quand tous les pauvres s'y mettront, on traque, on enchaîne, on fusille. Tout ce qu'on ramasse au hasard, la mère à côté de sa fille, l'enfant dans les bras du vieillard, les châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terre. De tous les chemins, la bande bouge, vallée de rois et d'empereurs. Oui, mais ça prend le dans le manche, les mauvais jours finiront.
Égare
à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Demain les gens de la police
partout
refleuriront sur les trottoirs.
Justice nulle part,
fiers de leurs états de service. Et le pistolet en sauvant, sans pain, sans travail et sans armes, nous allons être gouvernés par des mouchards et des gendarmes, des sabres peuples et des curés
fumiers.
Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront.
Égare
à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront, le peuple collier de misère sera-t-il donc toujours rivé? Jusque à quand les gens de guerre tiendront-ils le haut du pavé? Jusque à quand la sainte clique nous croira-t-elle un vil bétail? À quand enfin la joie publique de la justice et son travail?
Oui, mais
ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront.
Égare
à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront.
La semaine sanglante, interprétée par la chorale Polisson, pendant ce rassemblement en soutien à la culture du jeudi 17 décembre dernier devant le Grand Théâtre d'Albi. On continue ce petit reportage avec une discussion à laquelle on s'est invité. Une discussion entre Roland Foissac, ancien conseiller municipal communiste de la mairie d'Albi, et Sylviane Guérin et André-Pierre Olivier, gérante et gérante du lieu culturel La Cheminée à Albi.
Vous êtes toujours conseiller municipal ?
Je ne suis plus conseiller municipal, mais je suis encore président départemental de l'Association des élus communistes et républicains.
Ok, mais attends, j'ai l'impression d'avoir coupé la conversation.
Ah non, pas du tout. Si tu veux parler avant,
non, mais
pas là-bas.
Non, effectivement, on était en train de parler du fait qu'on était extrêmement étonnés. D'arriver sur cette place où on a entendu qu'il s'agissait d'un rassemblement des gens de la culture, enfin des artistes, etc. Et puis d'entendre qu'il y avait un discours de Madame le maire. Madame le maire qui par ailleurs vient de sucrer quand même Madame le maire et c'est...
Une bonne partie des subventions.
Voilà, une bonne partie des subventions de la MJC. C'est un peu choquant de voir que tout à coup, d'entendre qu'elle serait ce soir en train de défendre la culture alors qu'elle, euh, qu'elle a bien abondé dans le sens d'éliminer une bonne grosse partie de la subvention de la MJC.
Alors voilà.
Non, moi je suis un peu choquée et c'est vrai que...
Que pour ces gens-là, il y a une culture à soutenir, hein, une culture qui est d'un accès pour quand même ceux qui ont les moyens, et puis pour ceux qui ont moins de moyens, eh ben, encore moins de culture. Donc effectivement, ils peuvent tenir un discours sur « on soutient la culture », mais pas la culture la plus populaire. Voilà.
La question qui est posée actuellement, c'est ici sur Albi, quelle culture voulons-nous et quelle culture défendent les institutions, notamment la mairie? C'est une culture de consommation, c'est une culture événementielle, c'est la culture éducation populaire, culture pour former l'esprit des gens, les aider à s'approprier le sens de la vie et à faire œuvre de création, ça, non. Venez voir les mappings, voilà, là, on ne touche pas. Les grands spectacles, comme ça, programmés par une grosse structure, là, on ne touche pas à la subvention. Par contre, on attaque de front et on coupe drastiquement les subventions d'une structure historique qui fait un travail de terrain, la Maison des Jeunes et de la Culture. Et ça, il faut que ce soit bien compris du maximum d'Albigeois. La culture, ça n'est pas la culture marchande, la culture de consommation que nous propose cette municipalité. C'est la culture du peuple, pour le peuple. Et nous, en tant que communistes, avec l'histoire qui est la nôtre, sur ce plan-là, en tout cas, je veux dire, on peut regarder les choses tranquillement. Défendons la culture et n'en faisons pas un objet de récupération comme ça vient d'être le cas actuellement à l'intérieur. Voilà.
Ceci dit, la programmation de la scène nationale, il y a de très 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 bons spectacles. Et,
mais oui, bien sûr.
Il n'est pas question d'opposer une culture à une autre à ce niveau-là. Hein. Moi, je souhaiterais que tout le monde puisse voir les trois quarts des spectacles qui passent ici à la scène nationale.
C'est loin d'être le cas, hein.
Mais voilà, mais au-delà de ça, c'est vrai que moi j'ai été extrêmement choquée par cette histoire de baisse de subvention de la MJC.
Bon, pour remettre un petit peu dans le contexte, on a entendu plusieurs voix, alors je vais rappeler, donc là j'étais arrivé au milieu d'une discussion entre Sylviane, André-Pierre et Roland Foissac du Parti communiste, et donc Sylviane et André-Pierre, vous tenez le lieu culturel La Cheminée à Albi.
Oui.
Et est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment ça se passe pour vous aussi nous raconter un petit peu comment ça se passe depuis mars dernier et comment vous le vivez personnellement en tant que gérant d'un lieu culturel comme ça.
Disons que cette année, on va dire, il y a deux phases. Il y a une première phase où effectivement il y a eu un premier confinement qui nous a obligés à déprogrammer les expositions que nous avions. En septembre, on a eu un petit peu de chance parce qu'on a pu accueillir un concert et une exposition organisée par le GMEA. On a pu aussi organiser une lecture d'un auteur albigeois, Claude Mamier. Donc, on a eu quand même quelques événements intéressants. Et dans la mesure où, pour l'instant, la structure ne vit pas de ça et ne fonctionne pas grâce à ça, ça ne nous a pas pénalisé en termes économiques. Par contre, ça nous inquiète pour le futur, bien sûr.
Oui, alors c'est vrai que pour nous, ce qui est triste, c'est qu'on avait des demandes d'artistes, de gens qui proposaient des choses qui nous plaisaient beaucoup et qu'on a été obligés de refuser. Après, c'est vrai qu'on n'est pas du tout un lieu qui fonctionne sur l'idée de vivre avec l'argent qu'on gagne par les spectacles, les gens qui se produisent à la cheminée, bah, ils ont leur cachet en fonction d'un prix libre, et puis nous, bah, on travaille bénévolement, voilà. Donc il n'y a pas d'implication financière pour nous, tout à fait. Mais mais c'est vrai que c'est très triste pour tout le monde, parce qu'on ne peut plus se réunir, parce qu'on n'a plus ces moments qui sont tellement importants autour de programmation artistique et culturelle.
Merci beaucoup. Je vous laisse continuer donc ce petit rassemblement ici. On est toujours devant le Théâtre de la Scène Nationale, donc le jeudi 17 décembre, en soutien au milieu de la culture.
Murieron cuatro mineros, mira, mira Marucinha, mira, mira como vengo yo. Murieron cuatro mineros, mira, mira Marucinha, mira, mira como vengo yo. Traigo la camisa roja, tra la 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 la. Traigo la camisa roja, tra la 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 la. De sangre de un compañero, mira, mira Marucinha, mira, mira como vengo yo. De sangre de un compañero, mira, mira Marucinha, mira, mira como vengo yo. Traigo la cabeza rota, tra la 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 la. Traigo la cabeza rota, tra la 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 la. Que me la rompió un valero, mira, mira Marucinha, mira, mira como vengo yo. Que me la rompió un valero, mira, mira Marucinha, mira, mira como vengo yo. Mañana son los senderos, tra la 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 la. Mañana son los senderos, tra la 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 la. De los cuatro pobres mineros, mira, mira Marucinha, mira, mira como vengo yo. De los cuatro pobres mineros, mira, mira Marucinha, mira, mira como vengo yo. Me cago en los capataces, tra la 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 la. Me cago en los capataces, tra la 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 la. Accionistas y esquiroles, mira, mira Marucinha, mira, mira como vengo yo. Accionistas y esquiroles, mira, mira Marucinha, mira, mira como vengo yo.
Et c'est la fin de ce magazine consacré au rassemblement du 17 décembre dernier à Albi, en soutien au secteur culturel. Merci de l'avoir suivi avec nous. Merci aux personnes que vous avez pu entendre, dans l'ordre Claire et Roland du Frigo, Frédéric Naël du Conservatoire d'Albi, Jérôme Cabot du Retour du Jeudi, Roland Foissac pour les élus communistes du Tarn, Sylviane Guérin et André-Pierre-Olivier de la Cheminée, et enfin la chorale Polisson pour les quelques chants interprétés ce soir-là dont vous en avez entendu une partie. Pour écouter ce magazine, rendez-vous sur notre site radioalbiges.com et sur notre page Facebook. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve en janvier pour un nouveau magazine comme un lundi.